salut à tous, salut à toutes. Vous êtes sur RTF 95,4 MHz ou sur le DAB+, etc. Je vous le dis à chaque fois, vous l'avez sans doute déjà noté. C'est les Barricades Mystérieuses, une émission de musique classique et de littérature. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de deux livres, un livre qui est un roman mais qui n'en est peut-être pas tellement un, et puis qui s'appelle Orgel, et un autre livre. Alors là, le titre est extrêmement explicite, c'est un livre de Alain Bauer, le célèbre criminologue. Ça s'appelle Les criminels les plus cons de l'histoire. Voilà, alors vous verrez qu'il y en a quand même qui sont extraordinaires, et avec une belle préface que je vous détaillerai tout à l'heure. Alors nous allons écouter un peu de musique classique pour commencer. Tout le monde connaît les Carmina Burana. Tout le monde connaît ça parce que tout le monde connaît la musique extrêmement spectaculaire de Karl Orff. Karl Orff, qui est un musicien de la fin du XXe siècle, enfin du milieu du XXe siècle, qu'on a soupçonné non sans raison d'accointance avec les nazis, mais enfin bref. Et c'est vrai que cet extrait des Carmina Burana a longtemps servi pour les meetings de Jean-Marie Le Pen. Alors, cela étant, les Carmina Burana, en réalité, ce sont des pièces de musique qui datent du XIIIe siècle et qui ont été retrouvées au monastère de Beuron en Bavière, d'où le nom de Carmina Burana. Alors, ce sont des pièces qui sont écrites soit en vieux latin, enfin en latin médiéval, qui est un latin très spécial et très bizarre. Il y a un dictionnaire particulier pour lire ce latin-là. Ou encore, c'est écrit en haut allemand. Et ce sont des textes qui sont très, très profanes. Alors, je vous propose d'en écouter deux de ces Carmina Burana. Et on a trouvé dans les manuscrits qui ont été retrouvés par la suite au monastère de Beuron, on a trouvé un chant dans lequel les moines de Solignac, Solignac, près de Limoges, se plaignent de la mauvaise qualité du vin, et puis un autre texte dans lequel ils se disent qu'ils sont bien fatigués et qu'ils se reposeraient bien. Voilà, les Carmina Burana, mais les vrais, les anciens, les vieux du XIIIe siècle. Thank you. Voilà, eh bien c'était cet extrait des Carmina Burana, alors les vrais, les originaux de Genuine Ones, voilà, qui évoquent la vie peut-être des moines de Solignac à l'époque. On ne sait pas ce qu'ils font maintenant, mais peut-être regrettent-ils aussi de ne pas avoir du vin convenable à table. Alors, tant qu'on y est, je vous ai un peu déçu peut-être en vous disant ce sont les Carmina Burana, mais ceux du XIIIe siècle. Alors, en revanche, j'ai déniché et une œuvre de Tommaso Albinoni. Alors, tout le monde connaît l'adagio de Tommaso Albinoni parce qu'on le joue toujours, soit pour les enterrements, soit pendant les messes de mariage, quand on a besoin d'un peu de recueillement au milieu de la messe. Alors, et régulièrement, j'ai entendu dire quand j'étais enfant, de toute façon, ce n'est pas Albinoni qui a écrit ça. D'ailleurs, il n'a jamais existé. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un d'autre. Alors, qu'en est-il? Bon, j'ai fait quelques recherches assez faciles. Albinoni a bel et bien existé, il a écrit énormément d'œuvres, il a vécu beaucoup à Venise et il a composé, tenez-vous bien, 80 opéras. Donc, il est mort en 1751 et pratiquement tous les manuscrits d'Albinoni avaient été récupérés et stockés à Dresde, dans la Bibliothèque nationale à Dresde, et Dresde a été absolument incendié et détruit en 1945, et donc toutes ces œuvres ont disparu. Mais il y a un musicologue qui a écrit en s'inspirant de Albinoni et puis d'autres musiciens comme Karl Stamitz, qui a écrit cet adagio d'Albinoni. Bon, on va l'écouter parce que c'est une très belle œuvre et ça fait toujours plaisir. Voilà, cet adagio de Tommaso Albinoni, enfin pas de Tommaso Albinoni, mais composé à partir de thèmes trouvés chez Albinoni et chez d'autres. Très, très joli, c'est en sol mineur, si ça peut vous intéresser. Passons maintenant à une autre œuvre qui a illustré le film Out of Africa. Très bon film dont nous avons tous, je crois, d'assez bons souvenirs. C'était l'histoire à peine romancée de Karen Blixen qui s'appelait La ferme africaine. On peut toujours lire le roman. Ce film était illustré entre autres par un extrait du concerto pour clarinette de Mozart. Alors, concerto très connu, c'est une des dernières œuvres de Mozart, je crois que c'est le Köchel 622, quelque chose comme ça, enfin ça, vraiment tout à fait proche de la fin de Mozart. Mozart très ami avec Stadler, qui était un très bon clarinettiste et qui était aussi son son parrain en franc-maçonnerie. C'est lui qui l'avait introduit à la loge de Vienne, et donc il a composé ce merveilleux concerto pour clarinette. Je vous propose d'en écouter un extrait, celui qui avait illustré Out of Africa. Voilà, c'était le deuxième mouvement du concerto pour clarinette de Mozart, archi connu, bien sûr, et qui illustrait entre autres le film Out of Africa. Alors, premier livre de cette émission, un roman qui est présenté comme roman de Emmanuel Salasque. Et en fait, elle a signé d'autres ouvrages sous le nom de Emmanuel Pagano. Alors, on parle des uchronies, qui sont les livres qui se déroulent dans un temps qui n'est pas le temps réel, du genre qu'est-ce qui serait passé si Napoléon avait gagné la bataille de Waterloo, par exemple. Bon, ça, c'est les uchronies. Puis il y a ce qu'on appelle aussi les dystopies, c'est les romans ou les ouvrages qui se déroulent dans un temps différent, hein, soit dans le passé, soit dans le futur. Et c'est le cas de beaucoup de livres célèbre, par exemple le célèbre 1984 de George Orwell, et bien fait partie des dystopies. Alors, Orgel de Emmanuel Pagano, donc Emmanuel Salasque, c'est une dystopie. Nous sommes en 2056 et nous sommes dans la montagne, dans les Alpes, et deux sœurs et leur mère qui ont monté une sorte de gîte et le monde entier est devenu extrêmement écologique, mortellement écologique. Alors, tout est réglementé, tout doit être bio, sourcé, etc., etc. Et là, je dois dire que c'est une partie très intéressante, parce que d'abord, c'est très bien écrit, elle écrit de façon très agréable à lire, et c'est pas du tout pesant, mais c'est surtout extrêmement vraisemblable. C'est-à-dire que tout ce qu'elle dit, eh bien, on se rend compte que dans l'idéal, il faudrait que ça soit ainsi. Par exemple, des transports extrêmement limités et qui doivent forcément être fait à plusieurs, tout doit être bio, tout le monde s'est converti au végétarisme, voire au véganisme, etc., etc. Le tourisme a également énormément diminué, en particulier les randonnées en montagne, parce que c'est devenu dangereux avec la multiplication des ours et des loups, enfin voilà. Donc ça, c'est le côté dystopie et le côté intéressant et un tout petit peu inquiétant, il faut bien dire, parce que tout cela implique bien sûr la présence de quantités de gendarmes, de drones. Alors vous savez, tout ce qui nous fait craindre pour nos libertés actuellement, l'identification informatique des visages, tout ce qui est fait en Chine pour commencer et peut-être bien en France actuellement, toutes ces choses-là qui nuisent à toutes les libertés individuelles, eh bien l'auteur nous les montre réalisées et c'est un peu effrayant, d'autant plus effrayant que ça a été dicté par le camp du bien. Il s'agit de préserver la planète, il s'agit de retarder le plus possible le dérèglement climatique, etc. Et d'autant plus que ces deux jumelles et leur mère vivent donc dans une sorte de refuge, de gîte, où elles reçoivent des gens qui sont tous, bien sûr, extrêmement écologiques. Elles vivent en contrebas d'un endroit très dangereux. Pourquoi ? Parce que c'est un glacier et sous le glacier s'est formée une énorme poche d'eau qui risque de défoncer un tas de rochers qui les soutient et de dévaler dans la vallée et de tuer un nombre de gens considérable. Et là, l'auteur s'est inspiré d'une catastrophe qui a eu lieu réellement en 1892, je crois, et qui a fait je ne sais combien de 1892, dans le Val de Montjoie, en Haute-Savoie, à la catastrophe de Saint-Gervais-les-Bains. Et donc, quantité de gens ont été tués, enfin il y a eu des dizaines et des dizaines de morts qui ont été tués par l'espèce d'énorme charge de masse d'eau qui a dévalé la colline. Alors, donc elles vivent sous la menace de ce glacier et la technologie moderne a mis des quantités extraordinaires de capteurs, etc. Et les gens sont tous abonnés, ils ont tous des téléphones portables et ils ont tous un code d'alarme et on leur dit, voilà, avec tel, quand vous entendrez tel code d'alarme, on vous dira sur votre téléphone portable ce que vous devez faire. Et alors, tout le monde est obligé d'avoir à portée de main 6 litres d'eau, en fait, etc. Ce qui rappelle un tout petit peu, et c'est un hasard, mais ce qui rappelle un tout petit peu ce livret qui a été distribué en France. Alors nous ne l'avons pas eu, mais il y a des endroits où ils l'ont eu, où on vous dit qu'est-ce qu'il faut faire en temps de guerre. Et il y a le coup, par exemple, des 6 bouteilles d'eau, etc., qu'il faut avoir à proximité. Bon, voilà, tout ça est intéressant et se lit avec plaisir. Et puis j'irai, il y a là, en plus, très bien écrit, et quand elle parle du glacier, elle en parle d'une manière extrêmement poétique, c'est très bien écrit, c'est presque du poème par moment. Bon, et puis alors il y a les histoires psychologisantes entre les deux sœurs, l'une qui est gravement atteinte mentalement, qui est quelqu'un d'ingérable, qui est, alors je crois que c'est ce que les psychiatres appellent les gens qui sont borderline, hein, qui sont pas suffisamment fous pour qu'on les enferme en permanence, mais quand même un peu. Et puis l'autre qui est complètement fasciné par sa sœur et qui renonce à se faire une vie parce qu'elle doit veiller sur sa sœur. Ça, je dois dire que c'est la partie la moins intéressante du roman, qui néanmoins se lit avec plaisir, je vous dis, à cause particulièrement du côté de dystopie, mais vraisemblable, de ce livre. Alors, c'est Emmanuel Salasque, S-A-L-A-S-C. Le titre, c'est Orgel, et c'est aux éditions POL.
Thank you.
Voilà, c'était le prélude de Tristan et Isolde de Richard Wagner, archi connu, avec le fameux accord La Fa Mi Ré, voilà, Ré dièse, Si Fa dièse. J'ai parlé à un spécialiste d'harmonie en lui parlant du fameux accord de Tristan. Il a rigolé, il m'a dit « Tu parles, je l'ai déjà trouvé bien souvent chez Jean-Sébastien Bach. » Alors voilà. Je livre ça à votre réflexion. En tout cas, c'était le prélude de Tristan et Isolde de Richard Wagner. Alors, deuxième livre de notre émission de cette semaine, par Alain Bauer, « Les criminels les plus cons de l'histoire ». Alors, Alain Bauer est assez connu, il est tout le temps à la télévision, sur tous les plateaux, et il est à la retraite maintenant, mais il était professeur de criminologie aux Arts et Métiers à Paris, qui est une espèce de cours du soir. Ouais, c'est un peu ça. C'est au départ une formation qui était destinée à des gens qui travaillaient, qui avaient un travail, un emploi, et qui venaient en cours du soir. Je connais personnellement quelqu'un qui, étant apprenti tourneur-fraiseur, est devenu ingénieur d'armement par le biais des Arts et Métiers. Alors, Alain Bauer enseignait la criminologie et il est excellent, il communique très bien, il est très drôle en plus. Et donc, il a écrit ce livre. Alors, je crois qu'il y en a même d'autres volumes. Voilà, Les criminels les plus cons de l'histoire. Alors, je dois dire que c'est un livre, il s'est contenté de compiler ou de faire compiler par des gens que j'espère il a payé les faits divers de à peu près tous les journaux. Alors, c'est devenu facile avec Internet. Car les faits divers qu'il nous relate et qui montrent tous la sottise de malfaiteurs, soit malchanceux, soit particulièrement maladroit, soit particulièrement bête. Donc voilà. Mais alors c'est très amusant. C'est des petites pages comme ça, des petites histoires. On ne peut pas dire que ce soit de la grande littérature. Il y a quand même une préface intéressante dans laquelle Alain Bauer fait appel à Sigmund Freud. Et alors, il nous dit finalement que Freud avait fait l'hypothèse que parmi les délinquants, voire même les criminels, eh bien, certains d'entre eux se faisaient prendre en quelque sorte exprès, ou plutôt c'est leur inconscient qui leur faisait commettre la maladresse qui allait les dénoncer aux autorités, et que dans la part de chacun d'entre nous, dans l'inconscient enfoui, ben, il y a une part de culpabilité, et que quelquefois c'est cette part de culpabilité qui fait agir les gens et fait d'eux donc les criminels les plus cons de l'histoire. Alors je vous en livre deux petites comme ça par hasard presque. Deux voleurs, alors celle qui se passe en France, on est à Millau et c'est en 2012. Alors il y a deux voleurs qui s'en prenaient à des distributeurs de boissons et de nourriture. Alors mais ils sont interrompus alors qu'ils étaient en train d'opérer et ils s'enfuient, mais l'un d'eux est rapidement interpellé et l'autre a réussi à échapper à la police. Mais il a laissé un indice, il a laissé une tongue. Et alors, donc, on a regardé et on a retrouvé son ADN sur la tongue. Et du coup, eh ben, on l'a retrouvé parce que sans doute il avait déjà eu quelques faits délictueux à son actif. Alors, une autre qui est pas mal aussi, une voleuse qui essaye des chaussures et des escarpins dans une grande surface. Et puis, elle choisit une paire de bottes et puis deux paires de chaussures, et puis finalement elle part en courant, l'alarme se déclenche, et alors malheureusement elle perd ses clés de voiture, laquelle est garée en face du magasin. Alors elle s'enfuit, mais la police a été alertée, elle utilise les clés, trouve le véhicule, les papiers d'identité de la voleuse, plus du cannabis. Et donc, la police l'a attendue chez elle, puisqu'elle est rentrée à pied, vu qu'elle avait oublié ses clés de voiture. Voilà, ça fait partie des faits divers collectés par Alain Bauer dans Les criminels les plus cons de l'histoire. Et puis, je voudrais vous livrer aussi une petite histoire, j'allais dire, pas tout à fait personnelle, mais presque, et en tout cas authentique, et en tout cas limousine. Voilà, il s'agit de quelqu'un qui était fortement soupçonné pour avoir volé une tondeuse à gazon, et puis il avait été pris en flagrant délit alors qu'il volait une autre tondeuse à gazon. Il passe au tribunal, à l'époque ça s'appelait la correctionnelle, et son avocat, c'est lui qui m'a raconté ça, son avocat lui conseille de nier farouchement le vol pour lequel il était simplement soupçonné et de solliciter l'indulgence du tribunal pour le vol qu'il avait commis et promettre de ne plus recommencer. Eh bien, à l'audience, le type se trompe. Et donc, le président s'est tourné vers l'avocat qui lui a dit « Ah, maître, il dit, quelquefois, nous exerçons un métier bien difficile. » Voilà. Donc, les criminels sont parfois stupides et parfois juste maladroits. En tout cas, c'est ainsi que va se terminer cette émission. Et je vous propose d'écouter, pour finir, un extrait de la 40 de Mozart, archi connu et archi belle aussi. Ça fait partie des morceaux les plus extraordinaires, je crois. C'est que chez 550, donc vous voyez, quand même bien avancé. Et je vous propose d'écouter le Molto Allegro. Et je vous dis au revoir à la semaine prochaine sur RTF 95.4 pour d'autres barricades mystérieuses.